Vous écoutez Secret d'Histoire, Thérèse, la petite sainte de Lisieux. Troisième partie.
Alors que le carême de 1896 s'achève, vous le devinez, Thérèse n'est pas au bout de ses épreuves. Désormais, âgée de 23 ans, elle en a plus que jamais la conviction. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
Thérèse va prendre froid en nettoyant les vitres du cloître.
Thérèse tombe malade, elle commence à tousser.
Hélène Mongin, biographe.
Et puis, un jeudi saint, c'est le moment où on célèbre la passion du Christ. Elle rentre dans sa cellule, elle sent un flot qui monte et c'est du sang. C'est la tuberculose.
À la fin du 19e siècle, la tuberculose est une maladie qui fait peur. On n'a rien pour la soigner, on sait qu'elle est fatale.
Première réaction de Thérèse, la joie, parce qu'elle sait bien que c'est un indice qu'elle va mourir, et voilà ce ciel qu'elle a tant désiré qui tout d'un coup se rapproche.
Le plus grand acte ordinaire, extraordinaire, pourrait-on dire, de Sainte Thérèse, c'est de sourire dans la maladie.
Henri Quentin, écrivain.
C'est de ne pas accaparer l'attention, de ne pas demander de soins.
Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien à personne, ni à sa sœur Pauline.
Elle a quelques jours comme ça de cette espérance de se dire « je vais enfin rejoindre le ciel ». Et puis dans les jours, comme elle dit, si joyeux du temps pascal, elle va rentrer dans une épreuve qu'elle n'avait pas imaginée, la nuit de la foi. Elle va aller, comme elle le dit, s'asseoir à la table des pécheurs, de ceux qui n'ont pas la foi. C'est comme si tout d'un coup le ciel n'existait plus. Elle se sent environnée de ténèbres et elle a ces espèces de paroles intérieures qui lui envahissent l'esprit, qui lui disent « avance, avance vers la mort où tu ne trouveras non pas ce que tu espères, mais la nuit du néant ». Elle a cette tentation de penser que Dieu n'existe pas, que sa vie n'est donc qu'une totale absurdité, et elle va vivre jusqu'à sa mort dans cette nuit de la foi absolument terrible. Elle partage l'incroyance qui est en train de naître à son époque et qui va se développer tant.
Pour Thérèse, la vie au Carmel devient une lutte de tous les instants. Dans le secret de son cœur, elle recherche avec angoisse les moyens de résister à l'appel du gouffre.
Thérèse portait sur son cœur les quatre évangiles reliés.
Frère Didier-Marie Gollet, biographe.
Et son confesseur lui dit « Écoutez, si vos tentations contre la foi sont trop fortes, écrivez donc le credo, le symbole des apôtres. » Elle a écrit ce credo, mais je trouve ça très joli, c'est le côté aussi romantique de Thérèse. En fait, pour écrire ce credo, elle a piqué le bout de son doigt et l'a fait perler quelques gouttes de sang, et c'est dans son sang qu'elle a trempé sa plume pour écrire en troisième de couverture de ses quatre évangiles « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc., qui est écrit avec son sang.
Elle est capable aussi de graver sur le mur de sa cellule « Jésus est mon unique amour ». Ces mots qu'elle arrache à cette nuit, qu'elle arrache à cette tentation du désespoir, qu'elle arrache à cette tentation du néant, qu'elle arrache à toutes ces voix intérieures qui lui disent « Dieu n'existe pas, ton existence n'a aucun sens, tout ce que tu fais ne sert à rien ».
Il va y avoir en fait une grande fatigue qui va peu à peu s'installer en elle. Il va y avoir une espèce de toux permanente, il va y avoir une gorge enrouée. Elle met une demi-heure pour remonter dans sa cellule, alors qu'il n'y a qu'un étage à monter. Hein. Et finalement, on va se rendre compte qu'elle est malade et fatiguée. Donc on va commencer dans un premier temps par la décharger des emplois qu'elle avait. On va lui permettre de ne plus assister à certains actes communautaires. Ce qui sera une profonde souffrance pour Thérèse. Oui, on ne me permet pas d'aller à tel office, mais je crois bien que je pourrais quand même y aller.
Les soins étaient dérisoires, il n'y avait rien pour la soigner. Donc on lui mettait des cataplasmes, on lui faisait boire du lait.
On vous applique dans le dos des vésicatoires qu'on enflamme et qui tirent après la peau et qui font des cloques, etc., qui font des choses très douloureuses. On vous frotte avec des grandes crins pour vous mettre une pommade. Thérèse dit qu'on lui fait boire un sirop de limaçon. Alors elle dit « Oh, que m'importe tant que je vois pas les cornes du limaçon ». Enfin, c'est-à-dire qu'elle garde un peu d'humour, y compris dans sa souffrance.
Minée par la maladie, Thérèse est alors rattrapée par une étrange affaire. Quelques années plus tôt, les mémoires d'une certaine Diana Vaughan, ancienne adepte du satanisme et de la franc-maçonnerie, ont passionné l'opinion. Dans ce témoignage, elle attribuait son retour au catholicisme à l'intercession de Jeanne d'Arc.
Thérèse et ses sœurs sont enflammées pour cette Diana Vaughan et disent quelle magnifique conversion, quel cheminement, quelle victoire pour l'Église et quelle victoire pour le Christ. Et Thérèse va d'ailleurs écrire à Diana Vaughan en lui envoyant une petite photo sur laquelle elle est représentée jouant Jeanne d'Arc dans une des récréations.
Thérèse de Lisieux est tout à fait conquise par l'idée que et la personne et l'esprit de Jeanne d'Arc et la miséricorde du Christ aient pu sauver cette jeune femme qui vivrait aux États-Unis à Charleston.
Dans sa lettre, Thérèse va même jusqu'à proposer à Diana Vaughan de se réfugier au Carmel de Lisieux. C'est alors qu'on annonce pour le 19 avril 1897 à Paris la première apparition publique de la fameuse convertie à l'occasion d'une conférence de presse.
Et à ce moment-là, au moment où on devrait voir arriver Diana Vaughan, on voit arriver Léo Taxil qui était l'anticlérical de service. Léo Taxil, c'était le journaliste de Charlie Hebdo pour la fin du 19e siècle. Et Léo Taxil, petit, bedonnant, chauve, arrive et dit « Diana Vaughan, c'est moi, c'était un canular, je me suis bien amusé, tout le monde y a cru. »
Cet imposteur qui est un escroc, qui est un individu très louche, qui a été condamné, qui a été profondément anticlérical, ensuite qui a essayé de rentrer dans la franc-maçonnerie, qui s'en est fait exclure parce qu'il s'est tout de suite fait repérer comme étant un personnage peu recommandable.
Et ce qui est assez frappant, c'est que dans cette séance publique-là, il y a une photo qui est projetée. C'est la photo envoyée par Sainte Thérèse, de Sainte Thérèse en Jeanne d'Arc.
Et elle va le savoir, et ça va être quelque chose qui va profondément l'atteindre. Elle a agi dans un élan d'amour et de miséricorde pour encourager cette femme et lui dire qu'elle va prier pour elle. Et elle se retrouve, elle qui voulait vivre cachée de tous, exposée aux railleries et aux yeux de tout le monde.
Léo Taxil avait envoyé une photo dédicacée de Diana Vaughan à Thérèse. Elle la déchire, elle la jette au fumier. Enfin, il y a une réaction qui est extrêmement violente de la part de Thérèse.
Antoinette Guise-Castelnuovo, historienne.
Et en plus, c'est un moment où Thérèse est très malade, où elle est fragile, elle est dans sa nuit de la foi. Donc effectivement, elle perçoit avec d'autant plus d'acuité le caractère mensonger du monde.
Comment les hommes peuvent-ils être si mauvais, si durs, être si insensibles? Et là, elle en a fait l'expérience profonde.
Depuis son entrée au Carmel, Thérèse a suivi un chemin spirituel très personnel, qu'elle appelle sa petite voie. Sur la demande de Mère Marie de Gonzague, tout juste réélue prieure, c'est dans cette période difficile qu'elle est amenée à préciser cette voie pour la première fois.
Et elle a cette révélation qu'en se faisant toute petite, comme un enfant, comme un oiseau qui vole, qui volette, mais qui ne peut pas vraiment atteindre les hauteurs vertigineuses de l'aigle, eh bien, elle va créer chez Jésus le désir d'étendre ses bras vers elle, et elle va parler des bras du Christ qui viennent la prendre comme étant presque un ascenseur, c'est-à-dire lui permettre cette ascension jusqu'à ce ciel, jusqu'à cette notion de sainteté à quoi elle aspire.
En ce mois de juillet 1897, Thérèse est maintenant trop malade pour continuer à vivre dans sa cellule. On décide de la descendre à l'infirmerie. Quand il fait beau, on l'installe sous les arcades dans l'ancien fauteuil roulant de son père Louis Martin. Désormais, la communauté fait bloc et s'organise pour l'accompagner face à la maladie.
Mère Marie de Gonzague, dont on dit toujours beaucoup de mal, mais qui pour moi est quand même une femme assez exceptionnelle, va décharger Mère Agnès en lui disant qu'elle peut passer son temps auprès de Thérèse pour recueillir ses paroles. C'est sœur Geneviève, Céline, qui servira d'infirmière. Et donc en fait, Thérèse va être très entourée par ses sœurs, par les autres sœurs de la communauté. Et elle va pouvoir leur dire un certain nombre de choses.
Donc elle donne un avant-goût des joies du ciel aux sœurs qui sont avec elle. Elle a des phrases assez célèbres comme « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, je vais verser sur la terre une pluie de roses ».
Elle leur dit « Mes petites sœurs, il ne faut pas s'attendre, quand je serai au ciel, à ce que je vous fasse tomber les alouettes toutes rôties dans le bec. Ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce que vous aurez à vivre. Il faudra que vous disiez comme moi, Seigneur, vous me réjouissez par tout ce que vous faites. »
On n'avait à l'époque aucun antalgique, elle n'a jamais eu de morphine. Petit à petit, elle perd l'usage de ses poumons. Elle dira, si vous saviez ce que c'est, que d'étouffer. Par ailleurs, la gangrène se saisit de ses intestins. Donc elle va vivre vraiment lors de ses dernières semaines, à partir de la fin du mois d'août, des souffrances épouvantables. Elle n'en peut plus.
Et il y a un moment où elle dit que si elle n'avait pas eu la foi, elle se serait donné la mort sans hésiter. C'est très clair.
En même temps, dès qu'elle se sent un peu mieux, elle retrouve son humour habituel. Hein. Thérèse fait à l'époque un certain nombre de plaisanteries assez étonnantes sur son enterrement, son squelette, ce genre de choses.
Elle est capable d'un humour noir absolu lorsque elle voit par la fenêtre de sa cellule des gens qui sont en train de préparer ce qui serait peut-être éventuellement son cercueil et les bougies et les cierges. Et elle est capable de dire donc ça, ce sont les cierges que vous mettrez dans la main. Je veux bien le cierge, mais je ne veux pas le chandelier tellement il est laid.
Thérèse, peu avant sa mort, va dire l'omelette, là, qu'on sert un peu toutes les semaines, il faut arrêter avec cette semelle. Et puis, un de ses derniers désirs de malade sera un éclair au chocolat. Le 30 septembre 1897, Thérèse entre visiblement en agonie. Elle n'arrive quasiment plus à respirer. Et Mère Marie de Gonzague appelle à son chevet toute la communauté, puisqu'il était d'usage à l'époque, d'accompagner la sœur qui va mourir vraiment jusqu'au bout. Donc il faut imaginer, dans cette petite pièce de l'infirmerie, toutes les sœurs agenouillées au pied de Thérèse qui gémit de douleur. Elle a des phrases terribles ce jour-là quand elle arrive à parler, pour dire à quel point elle souffre, qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle souffrance était possible. Et Mère Marie de Gonzague lui dit « Mais s'il fallait que ça dure encore des jours et des mois, Thérèse est saisie. » En même temps, c'était un appel à son courage. Et Thérèse dit « Oui, je veux bien. » Donc jusqu'au bout, dans l'acceptation de ce qui lui est donné de vivre.
Je pense quand même, comme tout être humain, la Carmélite n'est pas protégée de cette peur de la mort, de cet affrontement, de qu'est-ce qui va se passer.
Sœur Marie, prieur du Carmel de Lisieux.
Même si elle a la foi, il reste que notre humanité est là et qu'il peut y avoir, chacun peut avoir des réactions par rapport à cette mort qui vient. Thérèse dit à un moment donné, ma mère, est-ce que je vais savoir mourir ?
C'est presque les dernières paroles qu'elle va prononcer. Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Puis, peu de temps avant de mourir, elle dit simplement, Jésus, je t'aime, ô mon Dieu, je vous aime. Elle meurt dans un mouvement d'amour.
Et puis, Thérèse se tourne vers Marie de Gonzague en lui disant « Est-ce que ça va durer encore ?» Marie de Gonzague lui dit « Peut-être un peu. » Et là, le visage de Thérèse change. Elle entre vraiment dans sa dernière agonie. Et ce qui est très émouvant, c'est que même Marie de Gonzague fait ouvrir les portes, fait sonner la cloche en disant « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Et là, les sœurs qui sont restées à son chevet se disent « On dit la même chose au ciel !» Et Thérèse va à ce moment-là, tout d'un coup, se retrouver complètement apaisée, son regard s'illumine, et elle vit une espèce, visiblement, d'extase, ont témoigné les sœurs qui étaient auprès d'elle. Il y a quelques secondes, comme ça, magnifique. Et puis elle meurt.
Son visage est redevenu comme celui d'un enfant. La peau est redevenue blanche, etc. Comme si, quand le voile s'ouvrait pour elle, elle retrouvait toute sa beauté.
Juste avant de rendre l'âme, Thérèse a eu le temps de murmurer ces mots. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Son enterrement au cimetière municipal de Lisieux est suivi par très peu de monde. Et pourtant, un an plus tard, la petite Thérèse qui a vécu cachée dans le Carmel s'apprête à faire l'objet d'un véritable ouragan de gloire.
Quand Thérèse meurt, il y a une sœur qui dit « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans sa notice nécrologique ? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. »
Quand Thérèse meurt, elle laisse énormément d'écrits dans son couvent. La première chose que fait Mère Agnès, c'est de rassembler les textes qui sont dispersés parmi les membres de la communauté. Et elle décide de faire un récit de vie avec les textes autobiographiques qui seraient envoyés à l'ensemble des communautés de carmélites en France, comme on faisait depuis le XVIIe siècle. Chaque fois qu'une religieuse meurt, on envoie sa biographie à tous les carmels.
Intitulé « Un cantique d'amour ou le passage d'un ange », le manuscrit de Thérèse fait 400 pages, ce qui est très inhabituel. C'est donc à l'abbaye de Mondet, non loin de Bayeux, que les sœurs prennent d'abord la précaution de l'envoyer. Avant de le faire circuler, elle souhaite le soumettre à l'examen d'un théologien chevronné qui fut l'un des directeurs spirituels de Thérèse, le père Godefroy Madeleine de l'Ordre des Prémontrés.
Pendant 2-3 mois, il garde le manuscrit.
Père Dominique-Marie Dauzet, chanoine de l'Ordre des Prémontrés.
Et pour la première fois, il passe des heures dans un manuscrit féminin d'une petite carmélite. Alors au début, il trouve ça très frais, très joli. Il plaisante, il taquine Mère Agnès en disant « Mon crayon bleu va marcher, je vais rayer ce qu'il ne faut pas garder dans ce manuscrit. » Puis plus il avance dans sa lecture, plus il se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Thérèse pense quelque chose de Dieu, et elle a une conception de Dieu, une vision de Dieu, qui lui paraît apporter quelque chose de révolutionnaire. Le père Godefroy Madeleine saisit dans son intuition de théologien, il se dit « ça c'est un son nouveau, c'est une manière nouvelle de parler de Dieu dont on a besoin aujourd'hui ». Il se dit « il faut garder tout ça, ça peut passer comme ça ».
Le chanoine recommande tout de même un nouveau titre, « Histoire d'une âme ». Après avoir obtenu la bénédiction des autorités ecclésiastiques, la notice nécrologique éditée par Mère Agnès est imprimée en octobre 1898. Et du fait de l'épaisseur du manuscrit, l'imprimeur impose un tirage à 2000 exemplaires.
Et voilà comment le livre va être envoyé en plusieurs exemplaires dans tous les Carmels de France et même à l'extérieur de la France, au Canada, en Italie, en Pologne également.
Celui qui lit le livre, en général, le dévorant la nuit, est enthousiaste, écrit aux Carmélites de Lisieux et demande d'autres livres ou prête son exemplaire.
Il y a cette propagation de cette foi, de cette déclaration d'amour au Christ qui est effectivement tout à fait bouleversante et qui va interpeller absolument tous les gens qui vont lire le livre.
Et puis aussi, elle nous fait entrer dans le Carmel, ce lieu de clôture, ce lieu fermé pour tout le monde, où personne, un peu mystérieux pour tout le monde. Grâce à l'écrit de Thérèse, les gens allaient pouvoir rentrer dans l'intimité d'un monastère, d'un couvent.
Et en un an, les 2000 exemplaires sont distribués. Les carmélites reçoivent de nouvelles demandes, il faut le réimprimer.
Les sœurs ont été dépassées par ce qu'elles avaient commencé. C'est-à-dire qu'elles ne s'attendaient pas à l'ampleur du succès d'Histoire d'une âme.
On a connaissance d'un début de dévotion populaire par des courriers envoyés au Carmel pour témoigner de grâce obtenue.
Laurence Panontin, conférencière.
Et puis par un afflux anormal de personnes qui viennent frapper à la porte du Carmel pour demander comment on accède au tombeau de Sœur Thérèse. Au point même que les carmélites vont éditer un petit plan pour donner aux gens qui arrivent de la gare de Lisieux à cette époque-là pour monter au cimetière. Et donc son tombeau était accessible à chacun. Il y en a qui déposent des fleurs, les gens prient bien sûr. Il y en a, et c'est très touchant, ça se voit encore sur la croix, les gens écrivent leurs intentions sur le bois de la croix. Et ils viennent vraiment déposer des choses, confier des choses à Sœur Thérèse pour qu'elle puisse aller les porter pour eux auprès du Seigneur.
les personnes, d'une façon très spontanée, vont lui confier leurs soucis, vont leur confier leurs difficultés. Et ici, c'est une véritable surprise, on parle de guérison.
Emmanuel Houix, secrétaire général du sanctuaire de Lisieux.
On parle de miracles et les personnes vont être véritablement bouleversées par tous ces récits.
Lors de la Première Guerre mondiale, des milliers de combattants des deux camps vont demander à Thérèse de les protéger. Ce qui va renforcer encore sa popularité. Et au lendemain de la guerre, c'est une petite fille de 6 ans qui va se présenter sur la tombe de Thérèse, emmenée par les prostituées de la maison close de sa grand-mère.
Il y a une femme que tout le monde connaît en France, Edith Piaf. Enfant, elle est chez sa grand-mère à Bernay et Edith souffre d'une maladie des yeux. Elle perd la vue. Et là, Edith va demander à Thérèse de la guérir et Thérèse va la guérir. Et Edith Piaf va garder toute sa vie une grande dévotion à Thérèse. Elle l'appellera sa petite sœur.
Elle a toujours gardé une grande dévotion à Sainte Thérèse, au point de toujours avoir une statue de Sainte Thérèse cachée derrière le rideau de la scène où elle se produisait.
Nous connaissons la vie d'Edith qui n'a pas été une vie facile, mais Thérèse l'a accompagnée jusqu'au bout.
On a la liste de ce que Thérèse fait dans des collections de récits de miracles qui sont publiées à partir de 1907, qui s'appellent « Les Puits de Rose ». Tous les ans, les carmélites publient le meilleur des guérisons de Thérèse et elles les classent, soit par ordre chronologique, soit par thème. Alors on a les guérisons physiques, et là on a absolument tout comme à Lourdes. Et puis, il y a très vite une demande de souvenirs. Des inconnus demandent des souvenirs de Thérèse comme si c'était une personne de leur famille. Alors elles commencent à envoyer des petits bouts de cheveux, des petits bouts de tissu, de draps, de la cellule où elle était, ou de tuniques qu'elle avait, des tout petits bouts de tissu qui sont cousus sur du papier. Et tout ce qui compte pour elle, c'est de faire plaisir et de nourrir la dévotion.
La popularité de Thérèse était telle que l'Église devait suivre. Un des arguments qui a été dit, il faut se dépêcher de canoniser Thérèse avant que ce soit les gens qui la canonisent eux-mêmes.
Pour faire canoniser Thérèse, les carmélites doivent maintenant rallier à la cause les plus hautes autorités de l'Église. C'est le pape Benoît XV qui va jouer un rôle décisif.
Benoît XV, c'est quelqu'un qui a connu Thérèse par un carmel avant d'être élu pape. Donc il la connaît déjà et en fait il a une image d'elle dans son portefeuille. Donc là, c'est une divine surprise pour les carmélites de Lisieux. Et ça va être le pape qui va introduire la cause, c'est-à-dire décider en 1914 de traiter au Vatican la cause de canonisation de Thérèse.
Depuis de longs mois déjà, l'évêque de Bayeux enquête pour savoir si Thérèse mérite d'être déclarée sainte. Le processus implique l'exhumation du corps de la religieuse au cimetière de Lisieux.
On sort le cercueil en présence donc de l'évêque, du préfet, d'un certain nombre de policiers, de membres du clergé et d'une foule assez nombreuse, plusieurs centaines de personnes. Et on sent une odeur de fleurs. On appelle l'odeur de sainteté.
Tous ceux qui ont eu la possibilité de sentir une odeur de sainteté disent que c'est un parfum ineffable, un mélange de lys, de parfum de lys, de fleurs, un peu d'encens.
À l'ouverture du cercueil, on trouve les vêtements de la carmélite, le squelette, plus aucune trace de chair, une espèce de terreau qui remplace la chair. Le squelette de Thérèse, on va lui mettre un vêtement neuf de religieuse. On remet tout dans un cercueil neuf et finalement, avec les débris du cercueil de 1897, on va pouvoir faire des reliques et des souvenirs.
En mars 1923, le procès en canonisation touche à sa fin. En présence de 30 000 personnes, les restes de Thérèse sont transférés triomphalement du cimetière municipal vers la chapelle du Carmel, où elle va reposer désormais. Thérèse est alors élevée au rang de bienheureuse. Puis, deux ans plus tard, le 17 mai 1925, à Rome, elle est enfin canonisée après la reconnaissance par l'Église de plusieurs miracles.
La canonisation de Thérèse, c'est un triomphe absolument incroyable. Et c'est un triomphe à l'échelle de l'Église, puisqu'on est en 1925, donc on est dans l'Italie mussolinienne. Depuis 1870, le pape a perdu ses états, il est replié dans le Vatican, et à l'occasion de la canonisation de Thérèse, on va illuminer la coupole de Saint-Pierre de Rome comme elle ne l'avait plus été depuis la perte des états pontificaux.
Et va se déplacer tous les chefs d'État, les rois de cette époque-là, pour être présents à cet événement. On pressentait que c'était un événement majeur dans l'histoire de notre époque.
Cette petite fille normande a eu, à ce moment-là, un rayonnement. Je crois qu'il y a eu peu de canonisations qui ont attiré autant de monde à Rome.
Au lendemain de la canonisation, la chapelle du Carmel est trop petite pour accueillir les milliers de pèlerins qui veulent venir prier Thérèse. Grâce aux dons qui affluent, les sœurs décident donc d'acheter la colline voisine et d'y faire construire une basilique. Consulté, le pape Pie XI déclare « Il faut faire très grand, très beau et le plus vite possible pour la sainte la plus aimée du monde ». Alors que le chantier débute, en France, comme dans le monde entier, on assiste à un élan de ferveur sans précédent.
Lorsqu'ils se rendent à Lisieux, très souvent, les pèlerins offrent à Thérèse des ex-voto, ces cadeaux familiers reliés à leurs histoires personnelles, pour la remercier de les accompagner dans leur parcours.
Toutes ces personnes qui ont voulu dire merci à travers ces objets, de la paire de lunettes, du paquet de cigarettes, en passant par des maillots de corps, des t-shirts, des chemises, des bijoux, une robe d'enfant, des doudous, et une multitude d'objets de la vie de tous les jours. Beaucoup de personnes se sentent très proches de Thérèse. Elle a ce génie de la proximité. Chaque personne a une valeur extraordinaire. Et Thérèse a les mots, elle a pour leur dire, le transmettre. Elle a ce génie de dire à chacun qu'ils sont aimés.
La présence de Sainte Thérèse dans la culture populaire se décline également à travers la chanson. C'est la chanteuse Natacha Saint-Pierre qui rencontre un grand succès en interprétant les poèmes de la petite carmélite de Lisieux.
C'est une tâche délicate de chanter les poèmes d'une sainte, en particulier de Thérèse, puisque les gens sont très attachés à elle. Parce que les gens la prient au quotidien, elle les aide au quotidien. Et donc, il y a une responsabilité malgré tout de ne pas trahir sa pensée quand on fait ce spectacle-là et d'être à la hauteur de ce qu'elle représente pour chaque personne qui vient nous voir. Dans ma vie de tous les jours, en dehors des spectacles, il va m'arriver de penser à elle. Quand il m'arrive quelque chose de beau, j'aime à croire qu'elle l'a mis sur ma route. Quand j'ai des épreuves, j'aime à croire qu'elle m'accompagne dans ces épreuves.
À Lisieux, en 1944, la dévotion à Thérèse a failli connaître un sort funeste. Lors des combats de la Libération, la ville est détruite à 75% par les bombardements, qui cause plus de 800 morts. Comme par miracle, la basilique, le Carmel et les buissonnets échappent à la destruction. Mais il est impossible d'accueillir les pèlerins avant plusieurs années. Le sanctuaire décide alors, pour la première fois, de faire voyager Sainte Thérèse.
Imaginez que dans les années 1910-1915, elle était connue en Australie. Elle était connue au Brésil en 1910. Très, très vite, elle a été connue. Le rayonnement est vraiment international.
Thérèse, donc, elle prend l'avion, on met le reliquaire dans un Boeing et on va en Inde ou en Indonésie pour que des gens puissent s'approcher des restes mortels de Thérèse.
Quand on s'approche des reliques, eh bien, on est à côté d'elle. On est, si vous voulez, ça matérialise, plus que ça matérialise, puisque c'est elle. C'est elle qui est là. C'est pas seulement quelques ossements qu'ils reçoivent, c'est Thérèse tout entière. C'est une visite de Thérèse tout entière. Le voyage des reliques de Sainte Thérèse à travers le monde, ça rejoint tellement son désir missionnaire. de voyager à travers le monde, d'aller dans les îles les plus reculées. Elle a visité 60 pays. Elle continue, on ne sait pas quand ça s'arrêtera, ça ne s'arrêtera peut-être jamais.
Une des particularités de Thérèse, c'est d'être aussi là où on ne l'attend pas. Lors du passage de ses reliques à Paris en 1995, même François Mitterrand, qui n'a plus que quelques mois à vivre, demande à avoir un tête-à-tête avec elle.
Monsieur Mitterrand est une éducation chrétienne, mais de là à dire qu'il était pratiquant, nous le savons tous que ça ne l'était pas du tout. Mais il était sensible à cette dimension spirituelle. Il va demander à ce que le reliquaire vienne jusque dans sa rue pour qu'il puisse tout simplement les approcher, les voir. Et ça a été un moment très émouvant. Les reliques se sont arrêtées en bas de son immeuble. Il est descendu. Les portes du véhicule ont été ouvertes. Et là, il y a eu un regard, un cœur à cœur entre Monsieur Mitterrand et Thérèse.
Un siècle après sa mort, et alors qu'en Europe les croyants semblent moins nombreux, Thérèse est devenue incontournable. À tel point que le pape Jean-Paul II décide de reconnaître son message comme l'un des piliers de la foi catholique, en faisant d'elle la troisième femme et la plus jeune des 33 saints considérés comme les docteurs de l'Église.
Jean-Paul II, quand il l'a déclarée docteur, a dit qu'elle était docteur en science de l'amour. Je crois que la nouveauté de Thérèse, c'est l'accent qu'elle met sur la miséricorde. Et une miséricorde qui est accessible à tous.
Thérèse nous apprend à accepter notre imperfection tout en continuant à chercher à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes.
Cet abandon à Dieu, cette confiance en Dieu, ça touche les gens. Et les gens s'y reconnaissent parce qu'on peut facilement, je dirais, s'identifier à elle. Et elle dit des choses qui sont faisables. Elle présente une religion qui est vivable, pas quelque chose d'inaccessible.
Et elle rejoint tellement de gens à travers ça, à travers la réalité de ce qu'elle a vécu, à travers la vérité de ce qu'elle dit. Donc forcément, ça va toucher des gens qui partagent sa foi, mais on a tellement d'exemples de personnes loin de l'Église ou d'une autre confession religieuse qui aiment Thérèse. Ça relève aussi du mystère, hein, on ne peut pas tout expliquer.
L'aventure sur cette terre de l'enfant chéri du monde, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, est loin d'être terminée. Car cette scène si proche et si humaine nous rappelle tout simplement qu'il n'y a pas de plus bel idéal sur cette terre que de vouloir vivre d'amour. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.